Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Le procès-verbal date du 16 novembre 2009. Un homme gît au bord de la route de l'ancienne voie ferrée, de San Giuliano. Une balle tirée dans le dos. Encore un mort, encore un homicide, encore un arabe. La banalité de l'affaire ne devrait guère attirer les médias, mais convoque à elle seule un paquet de lieux communs sur la Corse. Ce matin, je vous parle d'un livre très finement écrit qui fait mentir ce que je viens de dire. Ou comment un journaliste corse s'échine à redonner une identité au Maccabé et se force et ce faisant, dresse un portrait profond et ciselé de son île. Une enquête corse, faite de chair et d'histoire, avec un grand H et beaucoup, beaucoup de petites vies.
L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Bonjour Antoine Albertini.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à la maison de la radio.
Merci de m'avoir invité.
Voilà. On aurait pu vous avoir en duplex depuis la Corse. Les Invisibles, une enquête corse, ça sort chez JC Lattès. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. On va en parler dans un instant. Un petit tour de l'actualité des débats des médias. Pardonnez-moi. Décidément, ce matin. Allez, on y va. C'est Libération qui a dévoilé le plan proposé aux salariés du magazine Les Inrocuptibles. 25 départs volontaires sur les 80 personnes qui y travaillent. Je rappelle que Les Inrocs, comme Radio Nova, appartient aujourd'hui au petit groupe de presse constitué par Mathieu Pigas. Celui-ci est par ailleurs actionnaire du Monde. Sur le site de BFM Business, je vous invite à lire l'article de Jamal Henni « Comment le cinéma français apprend à vivre sans l'argent de Canal+. » On y comprend comment Canal demeure de loin le premier financier du 7e art, comment son chiffre d'affaires a chuté, donc ses obligations d'investissement également, comment Canal+ a modifié enfin sa stratégie dans le cinéma, se désengageant des gros budgets et refusant certains films en raison de leur sujet. Et puis à lire, pour finir, dans le New York Times, même pas besoin de parler anglais, je vous préviens, le quotidien publie avec force tableau et infographie des statistiques sur sa rédaction. Combien de femmes, combien d'hommes, combien de noirs, combien d'asiatiques, combien de latinos, de blancs, et ce, à tous les étages du journal et à tous les postes à responsabilité. C'est passionnant, évidemment, c'est une vraie cartographie d'une rédaction inimaginable en France.
Un nouvel homicide en Corse, le 11e depuis le début de l'année. Un homme de 45 ans a été abattu de 5 ou 6 balles ce matin devant une résidence d'Ajaccio.
À 10h40, Dominique Laroenzi circule au volant d'un véhicule sans permis, boulevard Pascal Rossigne, à la hauteur du rectorat, lorsque deux individus à moto tirent sur lui à plusieurs reprises.
C'est une scène de cauchemar qu'ont vécu ce midi des dizaines de voyageurs à l'aéroport de Porreta. Vers 11h30, des coups de feu éclatent, un homme s'effondre, mort.
Trois hommes ont donc été assassinés à bord de leur voiture, pas très loin de Corte. Ça s'est passé hier après-midi en Haute-Corse.
Antoine Albertini est mon invité. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de Corse Matin. Vous êtes également le correspondant du Monde en Corse, dans votre île. J'aimerais qu'on commence par ce long, très bel article passionnant que vous avez publié l'année dernière dans le Monde Magazine. Le jour où je me suis dit, j'aimerais tellement qu'Antoine Albertini prenne le bateau, la voiture, l'avion, tout ce qu'il veut, mais qu'il vienne jusqu'à la maison de la radio. Cet article s'appelait « La Corse à la vie, à la mort ». Un journaliste corse ne travaille pas comme ses confrères du continent, fussent-ils de grands spécialistes. Liste du crime. Racontez-vous dans ce papier écrit à la première personne. D'abord, votre oncle, votre propre oncle, a été assassiné en juin 1991. Et en fait, vous dites qu'en Corse, qu'on soit journaliste ou pas journaliste, le degré de proximité avec un mort par homicide est inévitable.
Oui, il est pratiquement inévitable compte tenu d'abord de la faiblesse démographique et puis oui. Du tropisme local qui donne lieu à beaucoup de débats et autant d'interprétations sur la nature de la violence en Corse et le fait qu'elle concerne pratiquement tout un chacun. Alors, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est un élément presque statistique.
Absolument.
Mais c'est quelque chose que nous ne sommes toujours pas prêts à regarder en face, alors qu'il s'impose à nous.
Et vous dites également que l'île étant prise dans un cycle de la vengeance privée, bah finalement, qu'on soit journaliste ou pas journaliste, on se dit qu'un assassin, on a pu le croiser tous les matins au café.
Ben oui, c'était dans le cadre de la rédaction de cet article. J'avais rencontré, d'ailleurs, j'avais pas dû beaucoup enquêter, à vrai dire, puisque d'une part, c'est mon quotidien, le quotidien de la plupart de mes confrères dans l'île. Mais j'avais rencontré un copain à moi, dont je savais que le meilleur ami avait été assassiné et que c'était, comme la plupart des homicides de cette nature, un cold case, quoi. C'est quelque chose qui ne sortira jamais, pour des tas de raisons que j'évoque dans le papier. Et je lui avais dit, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu vis la perte de ton meilleur ami, etc. Il m'avait dit, la perte, on s'y fait, d'une certaine manière. Ce qui est insoutenable, c'est de me dire que je croise peut-être son assassin tous les jours, que je fais du sport à la salle de sport avec lui, ou qu'il m'arrive de boire un café. Et c'est cette, si vous voulez, c'est cette incertitude, c'est ce double mouvement, ce double coup de ciseau de la certitude, pratiquement de l'homicide, et de l'incertitude, souvent, de savoir qui l'a perpétré, qui rend les choses extrêmement compliquées à vivre.
Et puis, vous dites qu'un journaliste en Corse a couvert plus d'homicides qu'aucun journaliste de la presse régionale ou nationale n'en couvrira jamais en deux ou trois carrières d'affilée. Vous racontez que vous...
Sauf évidemment pour les correspondants de guerre.
Évidemment.
Je pense que Rémi Ourdan du Monde en a vu un peu plus.
Un peu plus, peut-être. Vos dîners de famille sont interrompus par le téléphone. Un mort, encore un mort. Vos petits garçons sont habitués à entendre parler d'un mort au milieu du steak haché.
Oui, mais ça, c'est une scène qui s'est passée, effectivement, que je raconte dans le papier. J'ai malheureusement, comme beaucoup de journalistes, et pas seulement en Corse, toujours le portable à portée de main. Et puis, je dînais avec mes deux fils. Le portable a sonné, il devait être 20h, 20h30. Et donc l'aîné. Alors ils m'ont dit tu t'es trompé, c'est pas moi, c'est l'autre. Enfin bon, ils sont. Ils veulent pas s'auto-balancer.
Non.
Comme quoi le tropisme.
Les petits Corses.
Voilà. Et en fait le téléphone a sonné. Un de mes fils a dit purée, mais on peut pas dîner tranquillement. C'est qui? Et l'autre tranquillement en mastiquant son steak haché. Je m'en souviens très bien. Parce que ce sont quand même des scènes qui marquent. Et l'autre a répondu, s'il reçoit un coup de fil à cette heure-ci, c'est la rédaction, ça doit être quelqu'un qui s'est fait fumer. Et puis il a continué à dîner très tranquillement, comme s'il avait dit, ça doit être mamie qui appelle pour prendre de nos nouvelles, quoi.
Alors il y a cette spécificité du journaliste corse en Corse, justement, dont on vient de parler, c'est que vous êtes finalement très habitué à vous approcher d'un corps ensanglanté qui gît à terre au milieu d'une scène de crime. Des cadavres, vous en avez vu pour de vrai, alors que beaucoup de vos confrères parisiens, même spécialistes du crime, n'ont vu que des photos dans des dossiers de police. Et puis vous précisez cette autre ligne de démarcation, Antoine Albertini. Avant de se transformer en cadavre sous la lumière crue des lampes de la police scientifique, les morts avaient un visage et une démarche d'éthique, de langage, une famille, des amis. C'est pourquoi la nécrologie ne se résumera jamais à trois lignes tirées d'un PV, glissées dans une enveloppe par une source policière. Et je me suis demandé, les invisibles, c'est exactement ça, non? Ce livre que vous publiez.
Oui, ça rejoint ça. C'est-à-dire que le point de départ, c'est quand même l'interview que j'avais fait de ce bonhomme dont j'ignorais le nom au moment où je fais l'interview. Quand je sévissais sur François Corse-Viasté, là, et effectivement, c'est quelqu'un que j'avais côtoyé très peu, peut-être une heure, que j'avais avec lequel j'avais essayé de nouer le dialogue, ce qui n'avait pas été franchement aisé. Et il a bien que je ne l'ai vu qu'une heure, il avait déjà un visage, une voix, une attitude. C'était pas quelqu'un qui sortait du néant et dont j'apprenais la mort sur une dépêche AFP.
Mais quand le téléphone sonne au milieu de la journée et que vous vous rendez sur la scène de crime, à ce moment-là, il n'a pas de nom.
Moi, je n'y suis pas allé sur la scène de crime. Moi, j'étais en train de monter le documentaire dans lequel j'avais tourné la séquence avec El Hassan Emsarati, c'est son nom. Effectivement, on part. Mes confrères. Petite anecdote dans l'anecdote, le caméraman avec qui j'avais tourné la séquence avec la future victime, qui s'appelle Grégoire Bézi, qui était un de mes caméramans dont j'étais très très proche à France 3 Corse, est parti lui sur l'homicide une semaine après, sans savoir qui c'était. Donc il l'avait tourné une semaine sur un documentaire finalement presque banal, je dirais, sur l'immigration clandestine en Corse. Et puis une semaine après, le voilà en train d'essayer de doubler sa focale pour filmer de loin le corps gisant sur la route.
Et c'était le même homme.
Et c'était le même homme, et lui ne le savait pas.
Et c'était le même homme.
C'est moi, des dizaines de kilomètres à Ajaccio, qui reçoit l'appel de la gendarmerie en me disant, on a un petit souci, y a un mec qui s'est fait fumer, il y a quatre numéros dans son portable, c'est un clandé, manifestement, et il y a ton numéro de téléphone dedans.
Alors on va l'écouter, justement, El Hassam Emsarati. Il est né un 1er mai 1960 à Taza, au Maroc, comme vous dites. C'est un invisible, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un invisible. Et pourtant, il a été vu. Il a été vu à la télévision sur France 3 Corse.
Moi, j'ai payé 6 000 euros pour rentrer là. Hein.
À qui ?
À quelqu'un qui a une relation avec le patron.
Et ça marche comment ?
Ça marche comment ? Et ça marche en liquide. Je leur donne 6 000 euros en liquide à ce monsieur. Ce monsieur, elle partage avec le patron. Le patron, elle ramène les ouvriers. Elle travaille là gratuitement. Hein. Elle ramasse citrique gratuitement.
Et après, quand c'est fini ?
Et quand c'est fini, il t'a dit, monsieur, bonne journée. Hein.
Voilà comment une archive de télévision d'un seul coup fait parler un mort. C'est extrêmement troublant, mais c'est sa voix, c'est sa voix. Qu'est-ce qu'un invisible, Antoine Albertini ?
J'ai pas trouvé de terme plus approprié pour décrire ce que j'ai découvert finalement, et ce que la plupart de mes compatriotes ne voient pas, hormis ceux qui sont directement concernés. D'ailleurs, je commence à voir, à entendre sourdre des voix qui disent que, effectivement, comme on les voit pas, c'est forcément que ça n'existe pas. Mais c'est le meilleur terme que j'ai trouvé pour rappeler, pour nommer cette population d'ouvriers, la plupart du temps marocains, d'ouvriers agricoles, la plupart du temps marocains, qui viennent en Corse pour faire la saison de cueillette. Alors, les vendanges un peu moins, parce que dans la viticulture, ça s'est relativement assaini, mais... Il y a encore des abcès de fixation, mais surtout dans les exploitations fruitières, je dirais, qui viennent en Corse pour faire la saison, qui sont tributaires de réseaux d'immigration clandestine, c'est comme ça qu'ils viennent. Il explique très bien le mécanisme, on paye en liquide pour venir, on établit des contrats tout à fait légaux quand on arrive sur le territoire national, en Corse en l'occurrence, et puis, au lieu de quitter la Corse à l'issue de la fin du contrat, enfin, à l'issue du contrat, cette population reste là. Et cette population d'invisibles, ils sont invisibles pourquoi? Tout simplement parce qu'on a beau les croiser quand on traverse la plaine orientale, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est une espèce de longue bande côtière à la terre extrêmement fertile qui s'étend sur toute la façade est de la Corse, grosso modo de Bastia à Solenzar à Porto-Vecchio, on va dire, donc du nord vers le sud, et qui vivent là dans des conditions assez compliquées qu'on n'ose pas regarder en face en réalité, puisqu'ils soutiennent des pans entiers de l'économie, notamment l'agriculture. Et ce qui est très particulier, c'est de voir cette population qui apparaît si présente par le nombre, puisqu'on les voit au bord de la route, on les voit dans les exploitations, on les voit dans les cafés maures qu'on peut trouver à Ghisonaccia, qui est la capitale de la plaine orientale, entre guillemets. Et pourtant, ils n'existent pas. Ils n'existent pas statistiquement. Ils n'existent pas administrativement, puisque la plupart n'ont pas de papier. Ils n'existent pas statistiquement, parce qu'ils sont impossibles à recenser, et pour cause. Et puis, ils n'existent pas, finalement, socialement, parce qu'ils sont eux-mêmes exploités par strates successives, si vous voulez. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est-à-dire, les derniers arrivés sont exploités par ceux qui sont là depuis un peu plus de temps, qui eux-mêmes sont exploités par d'autres, qui eux-mêmes sont exploités par...
Le cycle du servage moderne, écrivez-vous. Et c'est ça qui est très, très, très intéressant dans ce livre. C'est que on connaît les grandes affaires, celles qui nous font pénétrer les tréfonds de notre société, dans tout ce que le crime a démesuré. Vous, vous prenez une petite vie, un petit meurtre, un petit homicide, un tout petit cas, ce qu'on appelle un fait divers. Et ça vous permet de brosser beaucoup de facettes de la Corse, et notamment l'histoire de la plaine orientale. Écoutez cette archive du magazine 5 colonnes à la une, qu'on a retrouvé 1965, période ORTF.
La Corse aux Corses. Les Corses qui, depuis des générations, ont quitté leur île pour aller chercher fortune ailleurs, écrivent maintenant ce nouveau slogan sur les murs de leur ville. Depuis quelques années, la Corse a vu arriver beaucoup d'argent, celui de l'État, celui de sociétés privées, et surtout celui de nouveaux venus, les pieds noirs, qui ont même fait venir des ouvriers arabes. Aujourd'hui, les Corses réagissent, violemment même, comme à Prunelli di Fiumorbe, au cœur de l'Alpine orientale, où le plastique a frappé trois fois, trois maisons sur des lots de la Somivac, la société de mise en valeur agricole de la Corse, et qui devait être emménagée par des pieds noirs.
Et voilà qu'à travers la mort d'El Hassam ressurgit cette histoire corse mêlée à l'histoire des pieds noirs, une histoire qu'on raconte rarement, Antoine Albertini.
Oui, c'est à la fin de la... C'est même, du reste, avant la fin de la guerre d'Algérie. Dès 1957, les premiers rapatriés arrivent, ils sentent l'indépendance du Maghreb arriver... à grands pas, et donc les plus fortunés d'entre eux, c'est souvent le cas, quittent le Maroc puis l'Algérie et viennent s'installer dans le sud de la France et en Corse. Il se trouve que l'État postcolonial un peu honteux de sa défaite face au FLN leur fait des facilités invraisemblables. Je précise, à toutes fins utiles, que sur les rapatriés qui viennent en Corse, il y en a environ 17 000, une très grande majorité de Corses, qui sont plutôt dans une strate de petits fonctionnaires, de petits commerçants, de petits employés des eaux et forêts, etc. Et puis, il y a quelques gros colons, pieds noirs, installés de longue date en Algérie, qui ont notamment colonisé et fait fleurir la Mitidja, mais qui viennent s'installer en Corse et qui bénéficient d'invraisemblables facilités pour faire prospérer leurs affaires, c'est-à-dire qu'il y a une société qui est créée pour l'occasion, la SOMIVAC, la société de mise en valeur de la Corse, qui leur donne des lots agricoles absolument insensés de plusieurs centaines d'hectares, ce qui bouleverse complètement l'agriculture locale, qui était composée de petites exploitations familiales vivrières.
Et ce qui bouleverse le paysage social également.
Et ce qui bouleverse le paysage social également, avec de la part, pas de tous évidemment, mais de certains de ces rapatriés, un véritable comportement d'apartheid à l'endroit des Corses, avec des clubhouses réservés exclusivement aux rapatriés d'Algérie, où il fait pas bon être corse, d'ailleurs ils sont pas acceptés. Je précise, malgré tout, que ça concerne vraiment des gens qui avaient déjà ce type de comportement en Algérie. Moi j'ai un tas d'exemples de pieds noirs, y compris fortunés, qui sont installés en Corse avec lesquels ça s'est extrêmement bien passé, qui n'ont jamais eu de problème. Par capillarité méditerranéenne, certaines manières d'être aussi, donc ça s'est très bien passé. Mais il y a eu aussi ce type de comportement à la marge, et surtout une fraude quasi généralisée, tolérée quand elle n'était pas encouragée par l'État qui voulait acheter la paix sociale. Moyennant quoi, c'est une population assez remuante quand même, on l'a vu dans le sud de la France à l'époque. Moyennant quoi, l'État veut tellement acheter la paix sociale qu'il crée pratiquement le nationalisme corse, puisque en réaction, évidemment, les insulaires se disent, bon, c'est bien gentil tout ça, mais on se fait foutre dehors à coups de sabbat chez nous.
C'est ça qui est absolument fascinant, c'est-à-dire que cet homme dont on ne connaît ni l'âge, ni le nom, ni l'identité, ni l'histoire, et qu'on trouve au bord d'une route, va vous permettre de raconter tout cela. Je précise aussi que ce n'est pas un prétexte, cette enquête que vous allez raconter dans ce livre, ce n'est pas un prétexte pour faire le portrait de la Corse, parce que vous racontez les investigations policières de manière chirurgicale, avec vocabulaire technique, avec le jargon, avec les planches photographiques, le PV des gendarmes, avec toutes ces tâches de l'ombre qu'exécutent flics et gendarmes, justement pour reconstituer l'itinéraire d'un mort.
Oui, il faut bien dire une chose, c'est que ce sont pratiquement les gendarmes de l'antenne de Haute-Corse, de la section de recherche de la gendarmerie, ont été jusqu'à 14 ou 15 sur cet homicide, qui est un homicide. Vous disiez tout à l'heure petits homicides. J'ai malheureusement appris qu'il n'y a aucun petit homicide.
C'est ça.
Il n'y en a aucun.
C'est ça. Voilà.
Que ça concerne un gros voyou qui a du sang sur les mains, ou que ça concerne un malheureux qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment, pour moi, il n'y en a aucun. Et c'est pas une simple précaution de langage, c'est vraiment ce que je pense. Vraiment. Mais il se trouve que les gendarmes, là, ont bossé d'arrache-pied pendant des mois et des mois.
De toute façon, tout ce livre en est l'éclatante démonstration, justement.
Sur cette affaire, pour non seulement essayer de remonter l'assassin, mais aussi trouver l'origine et la possible filière d'immigration clandestine qui pouvait être aux sources de cet assassinat.
Merci beaucoup Antoine Albertini. Ce livre est aussi un immense texte sur le racisme, et il n'est pas forcément là où on croit, il n'est pas forcément comme on croit, et c'est pas forcément le visage de la Corse qu'on imagine.
La Corse n'est jamais là où on croit.
Non, la Corse n'est jamais là où on croit. Les Invisibles, ça vient de sortir chez J.C. Lattès.